C'est le temps qui fait la panique.
C'est le temps qui fait la panique.
Une émission qui vous explique l'inflation des paroles dangereuses en RDC.
Chaque jour, dans les médias et surtout les médias sociaux, nous constatons que la manière dont nous parlons entre nous crée de plus en plus de divergences.
Et souvent, on ne réalise pas que nos paroles peuvent provoquer un sentiment de haine envers l'autre.
C'est le temps qui fait la panique.
Une émission de Bénévolentia en partenariat avec Radio Okapi.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout premier numéro de C'est le ton qui fait la panique pour cette nouvelle année. Nous espérons que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année et que vous commencez 2025 avec énergie et optimisme. Pour débuter cette nouvelle année, nous avons décidé de faire les choses un peu différemment, Babel.
Oui, Pauli, cette fois, c'est notre audience qui a orienté le choix du thème de l'émission. Nous vous avons demandé quel mot, selon vous, a le plus polarisé les opinions en République démocratique du Congo au courant de l'année écoulée. Autrement dit, quel mot a provoqué le plus de peur, de division ou de tension en RDC?
Et le résultat est sans appel, hein, Babel. Le mot qui revient dans la plupart des commentaires des internautes est « constitution ». En 2024, ce mot a suscité des débats enflammés autour de la question de la réforme constitutionnelle annoncée par le chef de l'État. Faut-il réviser la loi fondamentale actuelle? Faut-il plutôt la remplacer par une nouvelle? Le simple fait d'en parler semble avoir réveillé des craintes profondes au sein de la population, suscitant donc des débats tendus entre les partisans et les détracteurs de cette initiative, Babel.
Ce qui est fascinant, Pauli, c'est que le mot « constitution » renvoie à l'idée de stabilité et de règles claires conçues pour organiser le fonctionnement des institutions du pays. Le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, ce terme est perçu par certains comme une menace. Ils y voient une manœuvre politique qui dissimule mal des intentions cachées. Alors, pourquoi cette réforme constitutionnelle annoncée provoque-t-elle tant d'émotions et de méfiance?
Eh bien, dans cette émission, nous tenterons de répondre à cette question en trois étapes. D'abord, nous allons explorer pourquoi l'annonce d'une réforme constitutionnelle polarise souvent le débat public. Ensuite, nous allons aborder les malentendus et les dangers potentiels qui entourent ce débat clivant. Enfin, nous allons réfléchir aux moyens de dépassionner ce débat et de promouvoir des échanges plus apaisés et plus transparents.
Et pour nous accompagner dans cette réflexion, deux invités. Le premier est Christian Moleka, analyste politique et fondateur de la plateforme Politoscope, qui analyse les discours et l'expression sur les plateformes digitales en RDC. Bonjour Monsieur Moleka et merci d'être avec nous.
Bonjour et merci pour l'invitation.
Notre second invité est Gloire Manessa, il est juriste et avocat. Bonjour Maître Manessa et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour Monsieur le journaliste et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Okapi.
Merci Maître Manessa. Avant de lancer notre débat, écoutons un premier extrait de notre sketch radiophonique. Cette scène nous plonge au cœur d'une discussion entre des étudiants qui débattent autour du changement de leur charte universitaire. Cette réforme annoncée suscite des incompréhensions et des inquiétudes au sein du campus. On écoute.
Eh, les amis, nous nous sommes tignambés, non? D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Rentrons dans la salle de classe.
Arrête, Mboui. Aïna mana kougia ma somme.
Vraiment.
D'ailleurs, nous ne sommes même pas sûrs que nous n'allons pas être bientôt expulsés du campus.
Oh, expulsés?
Oui.
Mais, Amani, pourquoi tu as peur d'être chassé?
Toi aussi, Mboui. Ne fais pas comme si tu n'as pas entendu les discours qui est en vogue depuis toute une année. On ne parle que de changer la charte universitaire.
Oui, mais on voit un simple discours parlant d'un éventuel changement de la charte te fait peur.
Et qu'est-ce que tu
au en sais? Au point que tu crains même d'être expulsé du campus.
Mouta,
je comprends
Mouta,
pas.
Dis-moi,
qu'est-ce
fais exprès ou quoi?
C'est elle.
Hein? Comment ça je fais exprès?
Non mais attends, tu trouves normal que ceux qui évoquent le mot charte restent tellement vagues? Personne n'en sait grand-chose sur les ténèbres des aboutissants.
C'est ça justement. Et n'oubliez pas que cette charte est sacrée. C'est elle qui garantissait l'égalité des chances pour tous les étudiants, quoi. Ouais. Eh ben, il va changer encore.
Non,
nous sommes en train de devenir traumatisés à force d'entendre cette éternelle chanson de changer la charte sans connaître le vrai intention, quoi. Non.
Arrêtez de vous casser les nerfs avec une affaire qui ne vous concerne pas.
Ça nous concerne.
Arrêtez.
Ça nous concerne.
Allez dans le salle de classe.
Thank you. En quoi un simple discours parlant d'un éventuel changement de la charte universitaire te fait peur ? Demande l'un des personnages. Une scène intéressante, Gloire Manessa. Vous qui êtes juriste, pourquoi est-ce que l'évocation d'une réforme constitutionnelle a-t-elle cette capacité à diviser autant ? Pourquoi certains y voient un changement menaçant la stabilité du pays et d'autres une simple modalité d'expression démocratique, Gloire Manessa ?
Merci beaucoup, Monsieur Toli. La question de la Constitution en République démocratique du Congo, c'est une question tellement sensible au regard non seulement du droit, mais aussi de l'historique, de l'histoire politique de notre pays. Quand on parle de Constitution, on voit un écrit solennel, de par la technique qui conduit à l'élaboration d'une Constitution. C'est pour cette raison que la Constitution intéresse au plus haut point la population congolaise, et c'est avec raison que une annonce des réformes constitutionnelles a suscité beaucoup de tensions et beaucoup de peurs dans la population. Et cette constitution, étant élaborée à un certain niveau, a été présentée à la population comme une seule soupape qui dégage les libertés d'expression, les droits civils, mais également l'exercice démocratique du pouvoir dans le pays.
Maître Manessa, pourtant la même constitution prévoit les modalités même de sa révision. Pourquoi est-ce que ce débat suscite alors autant de passions, autant de clivages?
La population est restée collée à la constitution comme une bible qu'on ne peut pas changer à n'importe comment. Et le deuxième fait, c'est que cette constitution, depuis son adoption jusqu'en 2018, a été présenté, sensibilisé par les acteurs politiques, principalement de l'opposition, comme un instrument, un acte sacré qui ne pouvait pas être touché, surtout dans ses dispositions clés. C'est pour cette raison que la population attache beaucoup d'intérêt à la Constitution et est très sensible à toute idée de sa révision. Parlant de la révision, comme vous venez de poser la question, la Constitution elle-même prévoit cette sa propre révision. Contrairement à toutes les autres lois qu'on peut toucher à tout moment, j'ai parlé de la stabilité. De par sa vocation, elle est censée maintenir un équilibre. Elle est censée rester durable dans le temps et garder cette stabilité qu'on ne peut pas la réviser à n'importe comment. C'est pourquoi elle-même, la Constitution, prévoit sa révision. De cette de la Constitution qui parle de la révision constitutionnelle, il faut comprendre ce titre comme un tout. Pour bien maîtriser la manière dont la Constitution vient qu'on la révise. Ça signifie qu'elle prévoit, elle édicte les principes de la manière dont elle doit être modifiée. Qui peut avoir l'initiative? C'est le président de la République, le Parlement ou encore une fraction du peuple par pétition. Mais aux articles qui suivent, à l'article 219 et 220, cette même procédure prévoit des limitations à la révision. C'est là où la crainte de la population est justifiée. La première limitation, c'est qu'on ne peut pas la réviser lorsqu'on est en état de guerre ou en état de guerre. Mais la deuxième limitation, c'est la limitation de l'article 20, qui dit qu'on ne peut pas toucher les matières sensibles qui ont occasionné la fois dernière ces crises de légitimité des institutions et de leurs animateurs, notamment les nombres et la durée du mandat du chef de l'État, la forme républicaine de l'État, la forme représentative du gouvernement. Et donc, la peur de la population, la peur de l'ensemble des Congolais est justifiée par le fait que la volonté de vouloir réviser ou changer la Constitution est en train de vouloir amener certains politiques à toucher les articles qui sont verrouillés. Or, à l'esprit des articles qui parlent de la révision constitutionnelle, on ne peut pas, même le président de la République, ne peut pas initier une révision constitutionnelle qui irait dans le sens de modifier un article non révisable.
Merci Gloire Manessa pour toutes ces précisions. Nous nous tournons à présent vers vous, Monsieur Christian Moleka. Comment de votre côté vous expliquez que ce débat sur la réforme constitutionnelle soit perçu comme une menace par certains? Est-ce que c'est une question de contexte politique ou de communication plutôt?
Je dirais les deux. De manière générale, le débat public au Congo, il n'est pas construit sur je dirais une démarche constructive ou même une polémique constructive. De manière générale, le débat au Congo, il se construit autour de l'indexation, autour de la stigmatisation ou même des attaques personnelles. Ce qui fait qu'on a toujours une forme de polarité dans le débat public congolais entre ceux qui soutiennent et ceux qui s'opposent. Non pas parce qu'on est dans une logique une critique constructive, mais parce qu'on est dans une logique soit de déni systématique, soit de rejet systématique. Ça, c'est le tableau général du débat au Congo. Et donc, la question constitutionnelle n'a pas échappé à ce tableau-là, qui fait qu'au Congo, on a une polarité où il n'y a pas une démarche constructive. Deuxièmement, les personnes qui sont émetteurs du débat public au Congo, généralement ont tendance à apprécier dans leur propre chapelle, c'est-à-dire à parler à un public déjà acquis, et n'est pas à construire une démarche qui vise à conquérir les autres. Et conséquence, vous avez également un discours qui renforce le clivage, parce qu'il s'adresse déjà à un public acquis et vers lequel on a déjà construit une forme d'attachement, sans travailler à élargir le débat vers d'autres publics qui ne seraient pas ouverts à votre compréhension et pour lesquels il faudrait construire une démarche, je dirais, d'acquisition, si on peut dire comme ça. Et inversement, ceux qui sont dans la critique et donc dans le rejet, ne travaillent pas non plus à proposer, à, je dirais, des éléments de langage constructifs. Nous sommes dans les rejets en bloc de la proposition. Donc ce tableau-là n'a pas échappé à la Constitution, au débat sur la Constitution congolaise. Et particulièrement, il a été plus grave pour la Constitution. Parce que si les gens se rappellent historiquement, en 2015, le débat autour de la Constitution ne s'éloigne pas de ce qu'on vit aujourd'hui. Ça veut dire, dès le départ, une grande suspicion sous les intentions politiques de ceux qui amènent le projet de réforme. Et la suspicion, c'est la volonté de se pérenniser au pouvoir. Tout le débat qu'on a eu en 2015, touche pas mon desservante, c'est parce que la démarche de réforme constitutionnelle a été perçue par l'opinion et par l'opposition comme une tendance, une volonté de maintenir un système politique au-delà de la limite constitutionnelle, de la limite constitutionnelle prévue. Et donc, cette perception de changement comme mécanisme de pérennisation est restée dans l'opinion. Cette perception de politique de vouloir se pérenniser par des ajustements de texte est restée dans l'opinion. Et ceux qui hier ont mené ce même combat sont ceux qui aujourd'hui tente de changer un peu la vapeur en proposant une autre dynamique de construction de langage, mais qui, de mon point de vue, n'apporte pas des éléments constructifs. Par exemple, lorsqu'il pose les débats sur le fait que la Constitution est celle des étrangers, que la Constitution garantit une cession des terres, ce ne sont pas des éléments de langage qui visent à clarifier la compréhension du débat, mais plutôt à convaincre une opinion déjà assez orientée sur la problématique, l'opinion politique. Et ce clivage-là n'aide pas à la fois à dissiper les intentions ou la perception des intentions, mais renforce les clivages et renforce la perception qu'il y a une volonté de pérennisation du pouvoir par ceux qui sont actuellement en gestion.
Merci Christian Moleka pour cette première analyse. À présent, écoutons un deuxième extrait de notre feuilleton radiophonique. Cette fois-ci, les étudiants évoquent les dangers des informations contradictoires. Vous l'avez évoqué, Christian Moleka, qu'ils reçoivent à propos de la réforme de leur charte universitaire. Ils expriment également leur doute et leur peur face à un avenir qu'ils perçoivent comme incertain. On écoute.
Mais oui, pour toi, c'est donc normal d'entendre jour après jour que les seuls documents qui nous a régis toutes ces années seront au point d'être changés. Vraiment. Sans qu'il clarifie les vrais
motifs.
Je ne comprends pas pourquoi cette affaire vous préoccupe autant.
En tout cas, ce langage flou nous met en insécurité. Oui, depuis 2 mois, c'est toujours la même chanson. C'est toujours charte, 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 charte. Quoi? Sans qu'on ne sache ce qui va se passer exactement.
Ah oui. Et n'oublie pas que ça a déjà créé des perturbations au campus. Tout le monde a peur.
Tu sais, moi-même maintenant, là, quand j'entends le mot charte, là, ça me vient en tête des idées négatives.
Moi aussi, je commence à avoir peur que bientôt certains étudiants ne seront plus bienvenus. Et que tout le monde ne pourra pas bénéficier des bourses comme c'était avant.
Vraiment. Franchement, cette histoire fait peur.
Ça suffit. Arrêtez d'exagérer.
On n'exagère pas.
Ces deux-là cherchent seulement un prétexte pour saboter les projets des étudiants qui souhaitent changer la charte.
Non, mais attends. C'est comme ça que vous dites. Sachez bien que nous avons déjà compris votre jeu. Votre sale jeu-là, nous comprendrons déjà. On ne vous laissera pas faire.
Tais-toi.
On ne vous laissera pas faire. Nous ne sommes pas des moutons, des panouches à mener comme vous voulez. Je ne bouge pas ici. C'est quoi ça?
Mais pourquoi t'embrouilles avec ce qui n'est pas de ton rang?
Non mais
c'est clair que ce n'est pas de ton rang.
C'est à moi que tu
cries comme ça.
C'est à moi que tu dis tout ça. Toi tu me connais pas encore. Yo, il va pas bien t'aider. On va se frapper.
On va se frapper.
Si je te frappe,
on va se frapper. Tu vas te frapper. Tu vas frapper beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Tu me connais pas.
Tu t'agites pour rien.
Ça ne changera rien. Charles, ton ego changé. Ça reste comme ça. Ça va rester comme ça.
Toi, tu as le pouvoir de changer quelque chose.
Oh.
Tu as le pouvoir de changer quelque chose.
Oye bien anouté. Oye
bien anouté. Toi, ne ferme ta bouche.
Ce langage volontairement flou nous met en insécurité. Depuis des mois, c'est toujours la même chanson, fait remarquer l'un des étudiants. Christian Moleka, vous qui analysez le discours public et les réactions des Congolais sur les réseaux sociaux, comment est-ce que l'ambiguïté du langage politique autour de cette réforme constitutionnelle annoncée peut-elle alimenter la peur et la polarisation des opinions? En effet, tantôt on parle de révision de la Constitution, tantôt on évoque plutôt le remplacement pur et simple de l'actuelle loi fondamentale par un nouveau texte. Quelles conséquences cela peut-il avoir sur le débat public?
Mais la conséquence la plus logique, c'est le raidissement de l'autre camp, de ceux qui doutent. Ça renforce cette crispation-là et ça renforce la suspicion sur les intentions politique de ceux qui amènent la réforme. Lorsque vous entendez les gens dire, par exemple, on va passer de 5 à 7 ans de mandat, lorsque vous entendez les gens dire, le président va rester au pouvoir tant que Kagame sera de l'autre côté. Mm-hmm. Des tels langages parlés devant des militants semblent, alors que le monde aujourd'hui est un monde interconnecté, on n'est plus dans un registre où vous parlez à un public dans une salle et cette parole reste dans la salle. Mmh. Avec le numérique, avec tout ce qui nous, avec comme tous les réseaux sociaux aujourd'hui, vous parlez à un public devant vous, et bien sachez que ce message s'adresse à un public invisible, beaucoup plus large, ce qui n'est pas dans la salle. Mmh. Et donc ce propos renforce le doute et renforce l'inquiétude de ceux qui pensent qu'effectivement il y a des agendas cachés, non dévoilés, et que ce que l'on présente, ce n'est que la partie visible de l'iceberg, et que la partie invisible, elle est plus complexe, et donc ça crispe et ça renforce la polarité.
Mais de quelle manière est-ce que cela impacte la cohésion sociale dans un contexte politique déjà suffisamment tendu?
Mais déjà, ça pollue le débat, ça renforce le clivage. Nous, au niveau des Politoscopes, on a fait une étude sur la violence subie par les acteurs politiques, les personnalités politiques, où nous avons également porté le regard sur la révision constitutionnelle, qui était le sujet qui a connu qui a généré le plus de cyberviolence dans le débat. Mmh. Et les acteurs qui ont subi le plus de violence, il y avait Kabuya, Augustin Kabuya, effectivement, parce que c'est lui qui portait le débat, suivi de Olivier Kamitatou, parce que c'est lui qui répondait sur Twitter, notamment à Kabuya et Franck Diongo. Mmh. Et donc, vous voyez que même la production de la violence verbale, la violence numérique dans les plateformes, je dis, s'aligne sur les personnalités qui tiennent le discours politique sur la question constitutionnelle. Et donc, vous avez un débat pollué, vous avez un débat hyper crispé, vous avez une forte polarité de l'espace politique aujourd'hui, en tenant compte que vous avez des blocs très, très clairs entre ceux qui sont dans le rejet et ceux qui sont dans le soutien total. Et l'hypothèse que personne ne souhaite, c'est d'aller vers une confrontation des blocs et qui va donc nous amener vers des tensions sociales, des soulèvements, des marches, des contestations, un peu au mode 2015, qui vont donc remettre en question la stabilité politique et la paix sociale.
Merci, Monsieur Moleka. Je me tourne vers Monsieur Gloire Manessa. Quels sont, selon vous, les dangers juridiques et institutionnels d'un débat aussi polarisé sur la réforme constitutionnelle? Et puis, est-ce que ces clivages, ces tensions peuvent affecter la légitimité et la confiance des citoyens dans leurs institutions publiques?
Oui, le premier danger juridique, c'est l'effritement de la démocratie. Parce que le débat tel qu'il est orienté, M. Christian l'a dit dans sa première prise de parole, lorsque les dirigeants publics procèdent par la diabolisation de la norme constitutionnelle, on présente la Constitution, il y a de ces acteurs politiques qui sont allés jusqu'à dire que la Constitution que nous avons aujourd'hui est un chiffon, c'est une malédiction pour le pays. Cette diabolisation de la norme constitutionnelle plutôt est en train de vider même l'essence de l'existence de la démocratie que nous avons construite en République démocratique du Congo. La grande crainte, c'est que nous retournions vers la situation qui était avant l'adoption de cette constitution, cette situation où des Congolais pouvaient prendre des armes et récupérer une partie du territoire et chercher à revendiquer le pouvoir par les armes. Donc ce sont de très grands dangers que ces discours font courir l'État. La constitution est aujourd'hui, comme je l'ai dit, l'épicentre de l'équilibre de la vie sociétale. Donc, il convient de conclure en disant que les tentatives, les manœuvres politiques tendant à réviser ou changer la constitution ne favorise pas la démocratie, ne consolide pas la paix dans les pays, alors que la situation actuelle de notre pays a besoin de plus d'unité nationale, plus de cohésion nationale, mais également de respect des principes tels que des principes de respect des droits de l'homme, mais aussi des principes démocratiques, dont la gestion équitable du pouvoir pour résister en tant qu'État.
Cette réforme constitutionnelle, dites-vous, risque de nous ramener vers la dictature, hein, dites-vous, Gloire Manessa. Merci encore une fois pour cette analyse. À présent, je vous invite à écouter un troisième et dernier extrait de notre sketch radiophonique. Cette fois-ci, on va voir comment les étudiants apprennent à aborder les débats autour des changements institutionnels avec plus de sérénité et de clarté. On écoute.
Il ne faut pas tout de même exagérer pour dire qu'entendre un simple mot ferait peur aux autres. Mais attends, c'est absurde tout ça.
Oui, dis-moi un peu. Quelle serait ta réaction si tu étais étudiant simple et que tu entendais ce genre de langage? Changer la charte, qui est le seul document, je dis bien le seul document qui garantit la stabilité et l'égalité des chances au sein du campus.
Ben oui,
et quelle serait ta réaction?
Et surtout si c'est le même document qui permet la cohésion entre les étudiants au campus.
Mais ça aussi. Quand même, cette charte n'est pas une Bible quand même. Moukana Wanzambia, tout? Oh, qui vous a dit que son contenu est intouchable?
Mais attends, le fait d'en parler tout le jour sans préciser ce qui va être changé, c'est ce qui est inquiétant. Ça nous insécurise, nous tous.
Et en plus, parler de changer la charte au moment où tout fonctionnait normalement, c'est suite des inquiétudes.
Mais tu sais, je pense qu'ils ont quand même raison, hein. Il aurait fallu faire très attention pour ne pas jouer avec un mot tellement lourd comme la charte. Sérieux.
Ah, c'est vraiment ce que j'ai constaté, effectivement. Je me rends compte que plus on continue à en parler, plus on crée la panique et il y a des risques de tout chambouler.
Exactement.
Les gars, on n'aura pas de solution comme ça. Calmez-vous, essayons de réfléchir un peu, exhorte l'un des étudiants dans ce dernier sketch. Christian Moleka, selon vous, que peuvent faire les acteurs politiques pour initier une réforme constitutionnelle de manière plus apaisée et transparente? Quelles pratiques permettraient concrètement de restaurer la confiance et désamorcer les tensions?
Ben, il faut déjà s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Permettre un débat serein, un débat... sincère. Ailleurs, les candidats présidents, lorsqu'ils veulent porter une réforme constitutionnelle, l'inscrivent dans leur projet de campagne. Et donc, pendant toute la campagne électorale, ils amènent des arguments, ils amènent des dispositions qui peuvent être sujets à débat. Ils invitent des experts, pas uniquement des politiques, des experts qui viennent éclairer le débat. Ils écrivent des ouvrages pour justifier le changement qu'ils veulent apporter, pour mettre aux gens de comprendre clairement leurs pensées et donc d'enlever, d'ôter les a priori et les suspicions. Donc ce débat clair, chez nous, parfois on l'évite inutilement et on complexifie l'équation. Deuxièmement, lorsque l'on veut réformer un texte, eh bien on devrait se limiter à ce que le texte nous prévoit de faire. Ça veut dire quelles sont les dispositions qui peuvent être amendées, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas, et personne ne peut prétendre dépasser ce que la loi ne prévoit. Et tant qu'on reste dans ces conditions-là, lorsqu'on apporte des arguments, je dirais solides, et qu'on soumet ce débat à un débat citoyen très clair, je crois qu'on va ôter petit à petit les suspicions liées à l'interprétation des intentions politiques. Et peut-être après, c'est un problème également de culture, de texte. Il faut que l'homme politique congolais apprenne à respecter les textes, à respecter les textes qui fondent même le sens de son pouvoir. Si on n'a pas cette culture de texte, du respect des textes, du respect que le texte soit une forme de limitation au pouvoir, parce qu'un système démocratique, c'est un système de pouvoir limité, eh bien, on aura toujours cette perception de la volonté d'utiliser les textes à des fins politiques pour se pérenniser ou non.
Merci, Monsieur Omolika. C'est votre conclusion. Nous tournons également vers Monsieur Gloire Manessa. De votre point de vue aussi, hein, de juriste, quelles garanties légales ou quel cadre pourrait être mis en place pour qu'une initiative de réforme constitutionnelle se déroule dans la sérénité ici chez nous et pour que le mot constitution reflète plutôt l'unité que la division?
Le cadre, il est constitutionnel. Ce sont les dispositions des articles. J'ai cité ici des articles 218, 219 et 220. C'est là le cadre légal de la révision d'une constitution, comme M. Kessel a dit ici. Il peut procéder à une révision constitutionnelle. On en a eu dans ces pays, avant les élections de 2011, on a eu une révision constitutionnelle. Ça n'a pas posé de problème parce que c'était une révision qui s'est faite dans le respect de la constitution. Parce que la constitution, dans son essence, est censée rester durée dans le temps. Elle doit être rigide, respecter une certaine pérennité qui lui permet d'avoir cette essence-là des lois suprêmes, de l'âme de la nation. Si on la révise de façon intempestive ou si on se réveille un bon matin, on trouve qu'il faut la changer selon que ça nous va ou ça ne nous va pas, on vide même l'essence, les caractères sacro-saints ou les caractères suprême de la Constitution. Le cadre légal, c'est le cadre constitutionnel. Mais comme la Constitution, c'est une loi éminemment politique et que sa révision ou sa vie dépend non seulement, non principalement du droit, mais également de la politique, s'il faut envisager une réforme constitutionnelle, si on estime que l'évolution du pays appelle à des réformes constitutionnelles, à des réformes des lois ou de la Constitution, le cadre, il doit être un cadre tellement sociétal. Il faut organiser un débat de société qui soit tenu dans un temps non suspect, qui soit tenu dans un contexte purement scientifique. Ça signifie que l'initiative doit procéder par des études profondes, sérieuses de scientifiques, ce sont les scientifiques qui mettent la vie dans une nation, et non partir de certaines ambitions politiques qu'on vient inculquer dans les paroles de certains politiciens, scientifiques ou professeurs d'université qui viennent les pondre comme mode de vie dans la société. Ça signifie qu'il faut un débat au niveau de la société, d'abord comprendre les bien fondés de ces réformes qu'on veut apporter, encore l'opportunité de ces réformes, mais aussi les solutions qu'elles sont censées apporter et leur impact dans la vie de la société. Toute autre réforme qui procède par des ambitions politiques sont suicidaires, sont laconiques contre la démocratie et effritent la cohésion et l'unité nationale.
Voilà qui nous permet de chuter. Hein. Nous arrivons donc au terme de cet épisode de C'est le ton qui fait la panique. Nous avons exploré un sujet complexe qui aujourd'hui divise la société congolaise. Il s'agit bien entendu de la réforme constitutionnelle, Babel.
Oui, Pauli, cette initiative suscite la controverse, radicalise les positions des partisans de cette réforme constitutionnelle, tout comme celles de ses détracteurs. Pourtant, comme le montrent nos invités, il existe des solutions pour éviter cette polarisation. La transparence, l'inclusivité sont essentielles pour que ce type de débat ne devienne des facteurs de division.
L'une des leçons de cet épisode, c'est que la communication autour des réformes institutionnelles doit être faite avec soin. Les citoyens ont besoin de clarté pour pouvoir participer activement et sereinement au débat national sans craindre pour l'avenir de leur pays, Babel.
Merci encore une fois à nos invités Christian Omolika et Gloire Manessa pour vos analyses. Merci également à Alain Ngoy qui nous a accompagnés en régie. Et bien entendu, merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Vous écoutiez C'est le ton qui fait la panique, un magazine proposé par l'ONG La Benevolencia en partenariat avec Radio Capi.
Avant de nous quitter, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver cet épisode en rediffusion ce samedi à 11h05 et 19h05 ou le réécouter en podcast sur notre site internet www.radiocapi.net ainsi que sur www.abarirdc.net.
Nous vous invitons également à partager vos réflexions et commentaires sur nos pages Facebook, X, anciennement Twitter, de Radio Capi et de Abari RDC. Merci à tous et à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.
Au revoir.
C'est le temps qui fait la panique.
Une émission de Benevolencia en partenariat avec Radio Capitale.